Bonjour, vous écoutez l'épisode 41 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui du couple parental. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+, et maintenant j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent pour retrouver du temps pour vous, pour savourer les bons moments en famille et pour apaiser les moments, les émotions de chacun, en utilisant notamment trois outils, l'arc-en-ciel des besoins, la cheminée des émotions et le tequila. Alors pourquoi ce sujet du couple parental aujourd'hui? C'est un sujet que vous m'avez demandé plusieurs fois dans les rooms Clubhouse et aussi sur Instagram. C'est un sujet que je n'ai pas trop abordé. On en a parlé un petit peu dans l'épisode 11 sur la cohérence et un petit peu dans l'épisode 22 sur les règles et les limites qu'on posait aux enfants. Et vous allez voir que c'est un sujet qui va être adapté même si vous êtes séparés du coparent ou si vous êtes en conflit avec le coparent. Il va y avoir des pistes pour évoquer ce sujet qui concerne vraiment la vie de l'enfant dans sa situation, dans son identité, puisque le couple parental était là avant l'arrivée de l'enfant. En classe, quand j'avais le dispositif des moins de 3 ans, je n'imaginais pas à quel point ce sujet allait revenir souvent dans les entretiens individuels. C'est quelque chose que j'ai co-construit avec les parents, avec les mamans. Alors, des fois, je recevais les mamans seules, puis des fois, c'était les papas qui venaient en entretien. Et je trouvais ça très riche d'avoir les différentes visions des deux parents, d'avoir les différentes visions non seulement sur l'enfant, mais aussi sur leur ressenti de la vie à l'école, du lien entre la vie à l'école et la vie en famille, puisque parfois les comportements des enfants, comme on le disait dans l'épisode 18, n'étaient pas complètement les mêmes en classe et à la maison. Donc les habitudes que vous aviez en tant que parent avant d'avoir des enfants, donc en tant que couple, si c'était votre premier enfant par exemple, elles ont été complètement bouleversées dans leur méthode d'organisation, dans leur manière de gestion du temps, peut-être d'implication aussi, puisque dans votre couple seul, vous n'étiez responsable et co-responsable que de vous et de l'autre. Avec l'arrivée de l'enfant, la charge mentale a changé, a évolué, la fatigue est arrivée, peut-être les doutes, peut-être le stress, qui sont vraiment inhérents à la naissance de tout enfant. Donc au premier, au deuxième, au troisième, il peut y avoir des vagues de fatigue, des vagues de doutes, des vagues de stress sur des dossiers différents, peut-être le sommeil, peut-être l'alimentation. Et finalement, tous ces doutes, tous ces stress vont conduire à des feux de cheminée pour chacun des deux parents, peut-être pas sur les mêmes sujets, peut-être pas sur les mêmes notions et surtout pas sur les mêmes besoins ou les mêmes rayures. Donc c'est là où je vais investir un peu le sujet aujourd'hui, en mettant à jour que nos révélations personnelles en devenant maman ou en devenant papa vont appuyer d'autant plus sur notre arc-en-ciel qu'on essaye d'avancer à deux sur la même route puisqu'on est tous les deux parents et on essaye aussi de faire de notre mieux pour que notre enfant grandisse dans de bonnes conditions affectives, émotionnelles, peut-être intellectuelles, peut-être scolaires. Donc on a déjà des ambitions pour ces tout petits enfants, pour ces bébés. Et ça veut dire qu'on prend une nouvelle responsabilité, à la fois de nous porter, nous, comme adultes, et de porter l'enfant et tout l'avenir qu'on lui prépare à l'heure qu'il est. Donc ce couple parental, il est lui-même en construction, comme un enfant, comme les compétences dont je vous parle régulièrement. Donc ce couple, il va commencer à mettre des choix en place, il va voir si c'est bien, si c'est à adapter, si c'est à réajuster. Il va essayer de se répartir peut-être les tâches. Mais au fil du temps, vous allez vous rendre compte, et comme moi je me suis rendu compte, que certaines rayures clignotaient plus vite que d'autres. Pas les mêmes que celui du partenaire, pas les mêmes que celui de notre enfant. Et qu'on allait devoir réapprendre à nourrir nos propres rayures, essayer de voir ce qui clignote chez l'autre, enfant ou adulte, pour équilibrer au mieux tous ces arcs-en-ciel, donc trois arcs-en-ciel si vous n'avez qu'un enfant, ou plus encore d'arcs-en-ciel si vous avez plusieurs enfants. Donc on va accueillir, on va nommer ce qu'on voit dans notre semaine, ce qui se passe, on va essayer de scanner comment l'organisation se fait à la maison, au niveau des repas, au niveau des tâches ménagères, au niveau des papiers à remplir, l'administratif, les inscriptions. Qui se charge de ça? Comment? Est-ce qu'il y a du temps qui est dédié et qu'en contrepartie, l'autre fait autre chose? Donc, on peut déjà voir d'un côté vraiment matériel, il y a des choses à faire. Donc, vous pouvez faire vraiment un audit de tout ce qu'il y a à faire à la maison et de voir comment répartir les tâches un peu équitablement. Pour accueillir, nommer tout ce qu'on voit, c'est déjà parfois difficile quand on est très fatigué ou très stressé. Et comme il s'agit en plus de réfléchir à la meilleure manière d'agir, si les deux parents sont en feu de cheminée de fatigue, de colère, de stress, de peur, d'inquiétude, ça peut être difficile de démarrer une conversation quand les deux sont dans des feux de cheminée importants. Donc essayez de faire un peu de clarté sur le bon moment pour évoquer ces sujets-là ensemble, à deux, sur un moment plutôt calme, hein, comme on n'apprend pas à nager en pleine tempête, on essaye d'apprendre à nager dans une eau calme pour ensuite faire face à la vague en pleine tempête. Donc essayez de trouver un moment calme dans votre semaine où vous êtes à peu près tous les deux apaisés sur les gros dossiers, hein, parce que c'est pas une mer d'huile non plus, hein, la vie humaine, mais essayez de voir un moment calme pour faire un petit scan chacun de vos besoins, de vos rayures, un petit scan peut-être des rayures du couple. Est-ce que au niveau relation, vous êtes à peu près en paix? Est-ce qu'au niveau expression, chacun arrive à dire ce qu'il a à dire à l'autre? Est-ce qu'au niveau du sens qu'on met à ce projet parental, on est encore sur les mêmes objectifs, sur les mêmes projets? Donc il y a pas mal de verbalisation, mais il y a aussi de la conscientisation intérieure et personnelle. Donc avant de parler de tout ça à l'autre, on peut faire le point nous-mêmes de nos besoins, nos rayures, nos envies, nos objectifs sur cette maternité, sur cette parentalité, sur cet enfant qui est venu un peu bouleverser notre quotidien et nos rituels et nos routines. Donc, au moment de parler, quand vous serez chacun prêt à évoquer ce que vous avez identifié en vous, ce processus qu'on aura fait seul, on va essayer de le faire à deux, de parler à deux. Donc, si vous avez écouté l'épisode 27 sur le dialogue en communication non violente, il y avait déjà quelques pistes qui sont d'essayer de déceler chez l'autre dans quelle mesure il a répondu à un de ses besoins en agissant comme ça, il a répondu à une de ses émotions en agissant comme ça, et peut-être un compromis serait possible ou une organisation différente serait possible. Donc, une des formulations en communication non violente, c'est par exemple de dire « Je vois que ça te rend triste quand notre enfant refuse de manger. Est-ce que tu aurais besoin de soutien ou de mieux comprendre pourquoi il a ce comportement ? Et je te propose qu'on regarde ensemble si on trouve des ressources ou qu'on essaye une nouvelle possibilité. » Et quand on crée un dialogue comme ça avec le coparent, avec le partenaire, on essaye vraiment de se décentrer de toutes nos attentes dans un premier temps pour aller un peu sur la colline de l'autre, dans le point de vue de l'autre, dans ses yeux, dans son cœur, et de se dire pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça? Est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas bien nourri? Est-ce que je peux l'aider à nourrir ce besoin pour que l'équilibre parental reparte à la hausse, remonte en énergie, remonte en vibration et apaise un petit peu les tensions qui sont arrivées cette semaine-là ou ce mois-là. Donc ça, c'est une des trames de dialogue, hein. Vous en trouverez plein d'autres si vous tapez « communication non violente » et c'est quelque chose que j'approfondis vraiment dans le programme en ligne sur l'accompagnement des mamans. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour que je développe des posts dans ce sens ou qu'on refasse des rooms sur Clubhouse, sur la communication non violente. Il y en a déjà eu plusieurs qui ont plutôt bien marché. Et de se dire, quand je permets à l'autre comme ça de voir mes émotions, mes besoins, c'est une vraie richesse au niveau du couple parce que ça permet une petite vulnérabilité qui apaise aussi les attentes de perfection de chacun. À aucun moment, on ne peut se dire « l'autre va être une parfaite mère, l'autre va être un parfait père, l'autre va être un parfait coparent ». Nous-mêmes, on ne doit pas en attendre ça de nous dans un premier temps, donc il n'est pas question d'attendre de l'autre parent qu'il soit absolument parfait. Et que quand on accepte que l'autre soit vulnérable comme nous, on est vulnérable, ben on se remet du même côté en fait de la procédure, du même côté du combat et du conflit. on redevient allié face aux difficultés au lieu de se bouffer le nez mutuellement en croyant que c'est la faute de l'autre si on est en colère ou la faute de l'autre si on est triste parce que lui il ne fait pas sa part ou parce que lui il n'en fait pas assez. Ces notions de jugement de valeur, ces notions de critique de l'autre, j'en ai beaucoup parlé dans les derniers épisodes, donc vous pouvez aller revoir dans la liste sur le regard de l'autre. Quand on critique, quand on donne un avis négatif aux coparents, c'est bien souvent que nous, on n'arrive pas à se l'accorder ou qu'on n'arrive pas à avancer sur ce dossier nous-mêmes. Et on essaye de rejeter la faute sur l'autre en croyant que c'est une manière, c'est une stratégie qui va fonctionner. Donc une fois de plus, je vous invite à partir dans votre cœur, dans votre arc-en-ciel de besoins, dans votre cheminée des émotions, de voir ce qui ne va pas, d'essayer d'isoler vraiment le besoin ou l'émotion qui vous titille, la braise qui reste active, et ensuite de chercher à deux un compromis. Et même si l'autre n'est pas capable de faire cette démarche-là ou n'est pas encore prêt à faire cette démarche-là, parce que c'est un processus qui est long, c'est un processus qui peut réveiller des blessures anciennes, qui peut réveiller des douleurs qui ne sont pas très confortables pour le conjoint. Peut-être que c'est des choses sur lesquelles il avait mis un couvercle ou elle avait mis un couvercle. Et donc, ce n'est pas toujours confortable. Il ne s'agit pas de dire « viens, on discute » et voilà, les bisounours et les paillettes arrivent. C'est parfois conflictuel, c'est parfois une porte un peu mystérieuse qui va s'ouvrir dans la conversation et de se dire que voir que notre enfant n'accepte pas d'obéir, que voir que notre enfant n'accepte pas de faire comme nous on a fait quand on était petit peut réveiller des choses qui avaient été mises un peu sous le tapis. Donc on en parlera dans d'autres outils, c'était pas forcément l'objet aujourd'hui, mais de voir que même si l'autre personne, le coparent, n'est pas encore très à l'aise avec ces scans, avec ces introspections-là, que je vous propose depuis plusieurs épisodes, de faire votre part de votre côté, et c'est le cas aussi si vous êtes séparés du papa ou de la maman, ou que le conflit est vraiment, la communication est rompue par exemple, vous pouvez faire ce travail de votre côté, et ensuite, En imaginant un petit peu les ressentis de l'autre, c'est quand même une projection. On ne peut pas tomber juste à chaque fois, mais on peut au moins s'intéresser et avoir l'intention de se connecter un peu aux besoins et aux émotions de l'autre. Imaginez dans quelle mesure on pourrait trouver un compromis. Et si jamais on arrivait un jour à créer un dialogue ou un semblant de dialogue, on pourrait à ce moment-là proposer tout ce qu'on a préparé de façon individuelle. Donc si on fait porter les rayures et nos feux à l'autre, on n'est plus du tout indépendant émotionnellement. Donc reprenons vraiment une indépendance émotionnelle, reprenons le pouvoir sur notre arc-en-ciel des besoins et notre cheminée, et seulement ensuite, on créera un compromis avec le partenaire. On peut aussi se faire accompagner, bien sûr, par un professionnel, par un thérapeute, par un psychologue. Vous avez des antennes de permanence dans les PMI, vous avez des antennes de permanence dans les CMP, les centres médico-psychologiques. Donc si vous sentez que la relation de couple est une chose en plus sur votre liste à régler, à gérer, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, parce que c'est déjà difficile de s'occuper d'un enfant quand c'est une nouvelle mise en route, une nouvelle vie, une nouvelle étape dans votre vie humaine et personnelle. Si en plus vous sentez que le couple n'est pas à la hauteur de tout ce que vous attendez pour vous occuper de ce nouveau-né ou de ce bébé, ça fait quand même deux conflits à porter, deux combats à mener. Et l'énergie étant ce qu'elle est quand on est jeune maman ou jeune papa, il devient difficile de faire front sur les deux combats en même temps. Donc pour bien s'occuper d'un enfant, il faut soit être bien avec nous-mêmes, soit être bien dans son couple, soit les deux dans l'idéal. C'est vrai que si vous êtes une maman solo, eh ben au moins que vous alliez bien, ça vous permet de vous occuper de vos enfants, de votre ou vos enfants. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans cette configuration-là. Et si jamais vous êtes en couple, que le couple était stable et qu'il y a une sorte de baby clash qui se soit installé depuis la naissance de l'enfant, que la communication soit difficile, que les relations se soient un peu distendues avec la fatigue, le stress, les doutes, et puis ces braises qui se réveillent dans chacun nos cheminées sur qu'est-ce que l'éducation, comment faire pour élever un enfant, comment gérer les entre guillemets caprices et bêtises et tout ça. Donc toutes ces vieilles trames qui remontent à la surface quand on devient parent, elles peuvent fragiliser à un moment notre couple, elles peuvent fragiliser aussi notre vision de la parentalité, et je vous invite à demander de l'aide si vous sentez qu'à ce moment-là, ça pourrait perturber votre lien à l'enfant ou perturber votre lien au conjoint. Quand la communication se rompt avec le conjoint, il devient bien difficile non seulement pour les adultes de trouver leur place, mais aussi pour l'enfant qui sent cette tension-là, qui sent que sa rayure d'identité est floue, qu'on lui, entre guillemets, cache certains éléments puisqu'il voit qu'il n'y a pas de communication, alors qu'on lui apprend bien souvent à essayer de verbaliser et de communiquer. Donc l'enfant sent qu'il y a un couac dans le couple. L'enfant sent quand il y a des disputes, quand il y a des tensions. Donc ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, c'est pour vous inviter, dès que vous voyez qu'il y a une tension, à faire le point individuellement, à faire le point avec le partenaire si c'est possible, ou à demander de l'aide en extérieur pour vous faire accompagner. Il y a aussi des services de médiation qui sont mis en place soit par la CAF, soit par les tribunaux. Donc n'hésitez pas, suivant votre région, suivant votre pays, je sais que je suis écoutée aussi dans d'autres pays, donc un coucou à tous ceux qui habitent en dehors de la France métropolitaine, de vous rapprocher d'une antenne petite enfance où il y a peut-être une permanence sur le droit des femmes, une permanence sur la communication, sur la médiation, peut-être sur la justice si votre situation est très compliquée, si vous êtes en pleine séparation, demandez de l'aide pour que ça n'impacte pas la relation et la fatigue par rapport à votre enfant. Je reviens dans des choses un peu plus positives maintenant. Donc cette notion de communication, elle va être évidemment primordiale, mais on peut passer par d'autres éléments que la communication dans le couple parental. Donc je vais vous réemmener sur l'outil du Tequil, qui selon moi est aussi utile avec notre enfant qu'avec nous-mêmes et avec notre conjoint, à savoir, plus vous allez passer de temps de qualité avec votre partenaire, plus ses besoins et vos besoins de relation notamment et d'expression, donc la rayure orange et la rayure indigo, vont être brillantes, vont être nourries, et plus les autres rayures s'harmoniseront par ricochet. Quand on se coupe de nos relations, quand on se coupe de nos expressions, de nos modes d'expression, les autres rayures commencent à flancher aussi à leur tour. Donc pour remettre du carburant, l'idée c'est de bloquer une fois par semaine un petit temps avec le partenaire, avec le coparent, soit pour aller courir, pour aller danser, pour aller faire un sport que vous aimez bien, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. Un temps où vous ne parlez que de vous deux, un temps où vous vous détendez. Donc on touche un peu à toutes les rayures, si vous allez au resto du coup ça va être un peu rayure rouge d'alimentation et détente et puis peut-être se ressourcer aussi si c'est une cuisine exotique. Si vous allez courir, il va aussi y avoir des décharges d'endorphines, la bonne fatigue du corps. Donc c'est un moyen aussi d'évacuer le stress, la fatigue et le doute et de se rapprocher. Donc faites aussi, si vous arrivez à communiquer avec le coparent, un petit inventaire de ce qui vous ferait du bien à tous les deux comme activité. Peut-être que c'est sortir une après-midi vraiment de la ville et aller découvrir un endroit que vous n'avez jamais visité, ou vous immerger avec une association improbable que vous n'aurez jamais fait, je ne sais pas, une association de karaté, un stage de karaté, alors que vous n'en avez jamais fait ni l'un ni l'autre. Mais ouvrez le champ des possibles, aérez un petit peu la relation, pour remettre justement du carburant dans la machine et revenir encore plus confiant vers votre enfant ou vos enfants. Alors pour ça, ça demande un peu d'organisation, ça demande surtout d'avoir une personne de confiance. Donc la personne de confiance, c'est un élément très important pour pouvoir passer des tequils avec soi quand on est maman solo ou à deux quand on est en famille, parce qu'il faut qu'il y ait une personne de confiance pour garder votre enfant. Soit votre enfant est déjà gardé par une assistante maternelle ou à la crèche ou à l'école, et auquel cas vous pouvez vous réorganiser pour faire ça sur le temps du midi, pendant que l'enfant est déjà gardé, si vos métiers mutuels le permettent, ou alors vous trouvez une personne de confiance, peut-être une sœur, une amie, une grand-mère, une voisine compétente en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez créer le lien avec votre enfant, parce qu'il est important aussi que lui, il voit cette personne comme figure d'attachement provisoire, comme figure d'attachement ponctuel et que le courant passe bien avec cette personne. Il ne s'agit pas d'engager quelqu'un qu'il n'a jamais vu, parce que sinon vous-même, vous allez être en situation un peu de doute pendant le rendez-vous avec votre conjoint et vous allez vous inquiéter en plus de votre couple pour l'enfant qui sera resté avec cette personne de confiance, mais de confiance un peu récente, un peu fragile. Donc, dès à présent, avant même de proposer un petit équil en couple, essayez de voir quelle est la personne de confiance qui va pouvoir vous s'occuper de votre enfant pendant que vous serez en équil d'amoureux. Si c'est un couple qui est en difficulté, ça peut aussi être un moyen d'aller dans un endroit public pour discuter, pour essayer de faire une médiation entre vous. Donc dans ce cas-là, il faut aussi une personne de confiance pour garder l'enfant. Donc prenez vraiment votre configuration actuelle, voyez quels sont les éléments pour que votre enfant reste en sécurité et que vous puissiez vous accorder un temps de qualité avec le coparent, le partenaire, l'amoureux, suivant la situation où vous êtes au présent. Pourquoi c'est important ? Non seulement ça recharge vos batteries, donc d'arc-en-ciel des besoins, en plus ça trie un peu les braises dans vos cheminées, les émotions à vous deux. Ça évite que les étincelles se réactivent dès le soir même, parce qu'en faisant un petit peu de ménage dans la cheminée, eh bien on évite que les flammes se surexposent les unes sur les autres et s'ajoutent et que ça fasse une flamme très très rapide à la fois de tristesse, de colère, de peur, de joie, de doute, de honte. Donc faisons un peu de clarté à la fois sur nos besoins et sur nos émotions pendant qu'on est dans cet équil-là. Si c'est une activité où vous n'avez pas envie de parler, ça peut faire le job aussi. On n'est pas obligé de parler tout le temps quand on est en couple. Et puis prenez une activité qui vous nourrisse tous les deux. Dans ce cas-là, ce sera vraiment un moment d'échange dont vous pourrez vous souvenir et vous pourrez aussi garder ça comme carburant de légèreté. Comme je vous disais dans l'épisode 3, quelque chose de détente, de rigolo et d'intense pour vous deux. Au quotidien, il y a quand même donc deux axes à mettre en place pour que le couple parental soit solide. Le premier axe, c'est de répartir au mieux l'organisation du temps avec les enfants, répartir au mieux l'organisation de la maison. Donc si vous êtes sur Instagram, vous avez vu le challenge Fly Lady qui permet plusieurs étapes pour que l'organisation de la maison vous permette de gagner du temps que vous ferez ensuite, soit en temps de qualité pour vous, de couple ou avec vos enfants, mais mettez en place une routine chez vous pour que chacun puisse trouver les objets dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ça vous fera gagner énormément en temps, mais surtout en stress, en doute et en fatigue. Parce que reprocher à l'autre de ne pas avoir rangé ses affaires, on l'a tous vécu. Ne pas retrouver un objet parce qu'il n'a pas été remis à sa place, on l'a tous vécu aussi. Et ça n'a l'air de rien, mais quand on a ça deux ou trois fois dans la journée, ou trois ou quatre fois dans la semaine, au bout d'un moment, ça tape quand même sur le système. Donc une des pistes, c'est de vraiment être très factuel et de voir comment mieux organiser sa maison, comment mieux organiser son rangement. Et puis, le deuxième, c'est de prendre votre planning, de prendre votre agenda et de voir cette semaine, quand est-ce qu'on se place un tequila à deux. Est-ce qu'on fait ça sur le temps du midi, pendant que les enfants sont à l'école? Est-ce qu'on fait ça une soirée, pendant que la grand-mère est libre, parce que la grand-mère, ce soir-là, elle peut se déplacer? Est-ce qu'on a une babysitter de confiance qui peut venir peut-être un samedi sur deux? Donc, vous voyez, c'est possible tout ça. Ça demande de l'intention, ça demande un petit peu d'investissement au départ. C'est comme si on créait l'élan de la locomotive. La locomotive, quand elle est à l'arrêt depuis longtemps, elle ne va pas se relancer toute seule. Et je vous dis ça parce qu'il y avait des mamans qui avaient témoigné sur Instagram qu'elles ne se rappelaient même plus le dernier moment en couple qu'elles avaient passé ensemble. Donc, je suis toujours un peu attristée de voir qu'il y a des mamans qui n'essayent même plus, en fait, de proposer des sorties à deux parce qu'elles aimeraient aussi que ça vienne de la part du partenaire, du coparent, du conjoint. Certes, on peut espérer que l'autre propose, mais si c'est quelque chose qui nous ferait du bien à nous, pourquoi ne pas le proposer? Pourquoi ne pas le regarder dans les yeux demain et lui dire « Écoute, on a besoin d'air, on a besoin de sortir. Est-ce qu'on peut faire venir ta mère, ta sœur ou la voisine tel jour? Ça te dit Moi, je réserve la personne de confiance et toi, tu trouves l'activité qui nous ferait du bien à tous les deux. Et là, normalement, ça crée une petite étincelle parce que on va sortir de cette routine, on va sortir de cette impression de jour de la marmotte qui chaque jour recommence, l'allaitement, les emmener, les habiller, le docteur, les microbes, les crises, les caprices, les émotions, le travail. Voilà, on a l'impression parfois d'être vraiment dans une roue comme un hamster. Et se projeter en regardant le calendrier et voir qu'au numéro 20 de ce mois-ci, vous avez une sortie de couple, eh bien voilà, ça crée une bulle d'air, ça crée une bulle d'espoir, ça crée une bulle de renouveau. Et surtout, ça répare cette impression que depuis que vous êtes parents, depuis qu'il y a des enfants à la maison, bah, on a un peu mis de côté la vie de couple, on a mis un peu de côté la légèreté et la joie qu'on avait ensemble avant. C'est plusieurs mamans, pendant les entretiens pour la préparation du programme en ligne, qui m'ont dit on avait une légèreté avant d'avoir les enfants, on avait voilà, une flexibilité, des fois on faisait pas le ménage, des fois on sortait manger, des fois on prenait le métro sur un coup de tête. Tout ça, c'était avant, et c'est pas forcément un deuil à faire complètement, mais par contre, c'est quelque chose à renouveler en prenant en compte les nouvelles conditions de vie. Les conditions de vie ont évolué, on est plus fatigué, on est plus stressé. Il y a des horaires de repas à tenir pour les enfants, parce que pour eux, c'est important quand même d'avoir des rythmes et des routines. Ça les structure et surtout, ça les sécurise. Donc quand on est parent, on a du mal à être aussi léger, aussi flexible qu'avant. Certains y arrivent, certains trouvent l'équilibre facilement. Et puis pour d'autres, ça va se mettre en place sur plusieurs mois, sur peut-être plusieurs années, parce que s'il y a un enfant chaque année, ça complique. Il y avait des mamans, il y a une maman à l'école que j'accompagnais et qui me disait au début, je pensais faire un seul enfant et puis reprendre le travail. Et puis le deuxième est arrivé, et puis le troisième est arrivé, et puis le quatrième est arrivé. Et la maman, là, elle me regardait, elle me disait je ne sais même plus si je reprendrai le travail. Elle a perdu de vue l'objectif initial parce que les circonstances, les conditions ont tellement changé en 4 ans. Qu'elle a eu du mal à mettre à jour ses objectifs de vie, ses objectifs de couple, ses objectifs sur le long terme. Donc là, on est encore au mois de janvier. Si vous avez l'envie et le courage, posez-vous, sortez une feuille de papier, mettez au clair ce que vous voulez pour vous dans cette année 2022. Est-ce que vous pouvez poser peut-être 3 objectifs personnels qui ne tiennent qu'à vous, et puis peut-être 3 objectifs en couple? Ça pourrait être découvrir un nouveau resto ou aller faire ce marathon si vous êtes tous les deux sportifs ou aller passer la frontière si vous êtes à côté d'un pays qui vous attire et que vous n'avez jamais fait. Donc, posez 3 objectifs pour vous, 3 objectifs pour le couple et puis 3 objectifs par rapport à vos enfants. Est-ce que cette année, vous avez envie peut-être de refaire la chambre? Cette année, vous avez envie de les emmener dans un parc d'attractions? Cette année, vous avez envie qu'ils soient capables de marcher tout seuls ou manger tout seuls? Mais voyez grand, voyez loin, parce que vous allez mettre en place dans votre cerveau une méthodologie inconsciente que si c'est possible pour vous, si vous l'avez écrit sur le papier, si ça vous tient à cœur, votre cerveau qui aime les défis est déjà en train de résoudre la manière et le moyen d'y arriver. C'est le principe des tableaux de visualisation. Vous avez peut-être vu passer ce post aussi sur mon compte Instagram. Chaque année, depuis 2 ans, je fais un tableau de visualisation où je pose mes rêves, je pose mes objectifs et je découpe les mots et les images qui illustreraient ces rêves-là et ces objectifs-là. Donc ça va changer chaque année. Ça va être vraiment unique et sur mesure. Donc, sans aller jusqu'au découpage, à l'affichage dans votre chambre d'un tableau de visualisation complet, faites juste quelques mots sur votre objectif personnel de cette année, votre objectif de couple et votre objectif pour les enfants. Ça vous permet d'alterner la roue du hamster qui est quotidienne. Chaque matin, il se passe ça. Chaque matin, il y a une lessive à faire. Chaque matin, il y a encore des choses à acheter et tout ça. Et puis une bulle d'espoir, une respiration vers des objectifs qui sont plus grands, qui sont peut-être plus ambitieux. Alors, gardez quand même des objectifs réalistes. Si vous imaginez déménager sur Mars l'année prochaine, ça me paraît un peu trop ambitieux. Donc, gardez quelque chose de faisable, mais qui vous fasse suffisamment vibrer, qui vous donne suffisamment envie de vous mettre en mouvement pour ces objectifs-là de couple personnel et avec vos petits loulous. Pour finir sur le couple parental, j'avais envie de revenir que la flamme individuelle et la construction de la vie ensemble, elles ont parfois une petite incompréhension suivant notre éducation à l'amour et au couple. Et quand on s'est mis en couple, on n'avait peut-être pas encore imaginé toutes les contraintes et tous les obstacles qui allaient se poser sur notre vie de couple sur le long terme. Et le fait que l'arrivée de l'enfant bouleverse ses codes, ses habitudes et ses routines, soit ça peut renforcer les couples. Hein. J'ai des mamans en entretien qui m'ont dit, en tout cas depuis qu'on a les enfants, on s'est vraiment rapprochés l'un l'autre parce qu'on est alliés justement dans cette quête d'éduquer les enfants avec bienveillance, avec peut-être dépassement de ce qu'on a vécu, avec d'autres méthodes que ce qu'on a vécu, en changeant, en faisant autrement. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les mamans que j'accompagne. Elles ont envie de faire autrement, elles ont envie de faire à leur manière, elles ont envie de mettre toutes leurs valeurs et leurs besoins et leurs émotions vraiment en synergie pour que l'enfant ait le meilleur de ce qu'elles connaissent à l'heure actuelle, hein, donc c'était en 2021 quand je parlais avec elle, et de se dire le couple peut justement être beaucoup plus fort si on arrive à harmoniser ces objectifs-là à deux, si on arrive à être ensemble vers cet objectif-là, au lieu de perdre une certaine énergie à dire à l'autre « Non, mais c'est pas comme ça, tu fais pas bien, et puis tu comprends pas, et puis moi je sais mieux, et puis tu fais pas comme il faut. » Donc cette énergie qu'on perd à critiquer l'autre, à se justifier auprès de l'autre, on pourrait la réinjecter en disant bah écoute, moi j'ai lu tel ou tel article, est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Comme ça on met en place bah, peut-être toute l'alimentation qu'on souhaite pour notre petit loulou, ou on peut discuter ensemble, est-ce que tu veux qu'on passe aux couches lavables? Est-ce que tu veux qu'on passe à un mode de garde différent? Est-ce qu'on le met en alternance avec une assistante maternelle ou on le garde à la maison? Tous ces sujets qui sont très importants dans la vie de l'enfant, il est d'autant plus important que le coparent soit acteur de la décision, soit au fait de vos envies à vous. Alors, je dis vous parce que c'est plus aux mamans d'habitude que je parle, mais quelles sont vos intentions? Pourquoi vous avez cette envie-là? En quoi vous avez imaginé les conséquences que les choix allaient avoir sur vous? En termes de logistique, mais aussi les choix ont parfois des conséquences parce que ça réduit la peur qu'on a pour notre enfant. Ça réduit l'insécurité qu'on a pour notre enfant. On se dit, j'ai envie de faire ces choix-là pour qu'il y ait le moins de risques possible et le moins de danger possible pour mon enfant. Donc j'essaye de trouver la meilleure solution. Et ce serait tellement plus confortable que le conjoint, que le partenaire, que le coparent comprennent mieux nos décisions, et pour qu'ils comprennent mieux nos décisions, il faudra lui expliquer. On est encore dans un système où l'autre ne peut pas deviner nos pensées, ne peut pas comprendre nos choix spontanément. Pour comprendre nos choix, on a besoin de lui exprimer, et pour lui exprimer, on a encore une fois besoin de le savoir nous-mêmes. Donc repartons. Nos besoins, nos émotions, quels sont les premiers choix que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que ces choix-là, je peux les partager avec le coparent? Est-ce qu'on peut en discuter calmement? Est-ce qu'il est prêt à discuter de tout ça avec moi? Plus je lui explique mes intentions et mes projections et les conséquences que ça pourrait avoir, plus j'en fais un allié, en fait, pour le projet de l'enfant. Plus c'est un allié et plus on va loin, plus on est fort, plus on se soutient et on partage, et plus l'enfant se sentira, lui aussi, dans une énergie de croissance, dans une énergie de projet, et il se sentira englobé dans ce qui le concerne aussi. Je vous donne ça comme élément parce que parfois, en classe, il y avait des avis contraires entre le père et la mère, et l'enfant ne savait plus à quel réseau d'informations, à quelle valeur d'informations se fier. Et les parents vivaient encore parfois ensemble. Hein. On pourrait comprendre que la situation soit vraiment plus fréquente quand les parents sont séparés et qu'il y a une garde alternée. Mais il pouvait arriver en classe que les parents qui habitaient encore ensemble aient deux visions complètement différentes de l'éducation de l'enfant. Ce qui peut arriver, c'est pas un jugement, c'est un fait, ça arrive, qu'on n'ait pas du tout la même vision de l'éducation de l'enfant. Mais si je me mets à la place de l'enfant, qui veut beaucoup de clarté et de cohérence, à un moment donné, ça ne lui rend pas beaucoup service de ne pas savoir vers qui se tourner, vers quelle version aller. Donc, il serait plus confortable pour l'enfant qu'on se mette d'accord, comme je vous disais dans l'épisode 22 sur les règles de vie, et puis aussi de parler de plus en plus de nos intentions entre nous, adultes, mais c'est valable aussi pour l'équipe parentale, l'équipe enseignante, l'équipe de crèche, l'équipe même à l'hôpital. Plus on communique, plus on fait des transmissions, plus on a des éléments factuels, concrets, pour agir en conscience concernant les enfants dont on a la charge ou la garde, ou les enfants qui sont chez nous. Donc voilà plusieurs éléments pour ressouder le couple parental, pour mieux communiquer, pour faire un va-et-vient entre ce que je vis et ce que lui vit, ce que je veux et ce que lui veut, et vraiment des clés de communication en disant « je reprends mon indépendance émotionnelle à mon compte, je lui laisse son indépendance émotionnelle à son compte », c'est-à-dire je ne prends pas en charge la tristesse ou la colère des autres, je peux les écouter, je peux être en empathie, je peux leur proposer de l'aide, mais à chacun de prendre en charge ses propres émotions. Et vous imaginez sans doute que je vais aller ensuite sur la puissance du modèle, sur l'épisode 6, à savoir que si les parents, séparés ou non, arrivent à être en pleine indépendance émotionnelle de leurs besoins, de leurs ressentis, de leurs projets, c'est un vrai cadeau, une fois de plus, pour l'enfant qui se dit « Ah, bon, eh ben voilà quels sont les modèles sur lesquels je peux m'identifier, voilà quels sont les exemples que j'ai autour de moi. Quand maman est en colère, elle se dit « j'ai de la colère en moi, je vais essayer de me calmer, je vais résoudre ma colère » au lieu de voir que maman dit « oui, mais c'est de ta faute si je suis en colère, c'est parce que tu as fait ça, c'est pas juste, t'es méchante » au lieu de faire porter cette colère ou cette tristesse sur un autre membre de la famille. Et ça me paraît capital, non seulement pour élever la génération là qui est toute jeune, mais ça me paraît aussi capital pour nous ouvrir les yeux sur nos fonctionnements qui ne nous ont pas rendu service pendant des dizaines d'années. Et je m'inclus dedans, puisque ça fait à peine 6 ans que je comprends que l'indépendance émotionnelle est la clé dans l'éducation. Combien de fois on a réalisé qu'on croyait être les responsables de la colère ou de la tristesse de nos propres parents. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas entendu une phrase de ce genre « oui, mais c'est ta faute » ou « oui, c'est à cause de toi » Est-ce qu'on n'a pas été induit dans la croyance fausse qu'on était responsable des actions de nos parents ? À aucun moment, on n'est responsable ni des émotions de nos parents, ni de notre conjoint, ni de notre collègue, ni de nos enfants. Nous ne sommes responsables que de nos propres besoins et de nos propres émotions. Après, notre besoin de contribuer, notre besoin d'empathie va nous tourner vers les gens qu'on aime, va nous tourner vers les gens qu'on pourrait aider. Mais c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et quand on verse dans cette obligation intérieure de vouloir aider toutes les émotions de nos enfants, toutes les émotions de notre conjoint, souvent le risque c'est que nous, on n'arrive plus à s'occuper de nos propres émotions et de nos propres besoins. Ce qui peut mener à un épuisement personnel, professionnel ou les deux, et de se dire je risque en plus après de faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre en disant mais c'est parce que je m'occupe de toi que je suis dans cet état-là. C'est parce que j'ai tout fait pour toi que je suis triste ou désespérée ou au bout du rouleau. Alors que je peux reprendre la responsabilité de mes sentiments, de mes émotions, de mes ressentis, de mes besoins à tout moment, aujourd'hui, maintenant, quand vous écoutez cet épisode, vous pouvez vous dire « voilà, j'assume, je suis triste, c'est moi qui suis triste. Je ne suis pas triste à cause de quelqu'un d'autre. Je suis triste parce que je ne m'accorde pas l'écoute dont j'ai besoin, je ne m'accorde pas le repos, le calme, la détente, l'expression, le mouvement. Tous les besoins de votre arc-en-ciel peuvent être nourris par vous-même. C'est bien difficile. Et si vous voulez refaire un petit scan tranquille, vous pouvez réécouter les épisodes 30 à 36 du podcast, les reprendre un par un et vous dire « Ok, alors ça, j'avoue, je faisais complètement porter sur les autres en me disant « Bah évidemment, la valorisation, ça vient de mon patron. » Non, pas du tout. La valorisation, ça peut venir de nous. La valorisation, ça peut venir d'une amie, ça peut venir d'un inconnu même. Et on voit la vie complètement autrement quand on ne fait pas porter au partenaire ou quand on ne fait pas porter à notre enfant nos propres responsabilités de sentiments et d'émotions. C'est très compliqué et je vous envoie tout mon amour et mon courage si vous en êtes à ce point-là, dans votre pratique, dans votre mode d'éducation ou dans votre couple, de vous dire « je n'avais jamais vu les choses comme ça ». Ça va changer toute votre perspective, non seulement parentale, de couple et individuelle, personnelle, de se dire « maintenant, tout de suite, je décide de ne plus reprocher aux autres mes insatisfactions, de ne plus reprocher aux autres mes émotions négatives et de ne plus reprocher aux autres mes frustrations de besoins non nourris. » Donc si vous voulez aller plus loin sur ces démarches-là, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, à activer les cloches aussi sur Instagram et sur Clubhouse pour être informé de toutes les rooms. L'avantage d'une room sur Clubhouse, c'est que vous pouvez directement poser vos questions, monter sur scène et poser vos questions et proposer des situations dans lesquelles on va explorer justement le besoin, l'émotion, comment trouver le bon compromis, comment trouver le bon tequila qui va aider chacun à faire un petit pas et cheminer vers une indépendance relationnelle, émotionnelle et parentale de façon la plus apaisée possible. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Cette manière de voir la vie, elle n'est pas arrivée en une seule fois. Je ne sais pas si vous avez écouté les différents épisodes où je parle de mon processus et de mon programme, mais ça a été sur beaucoup, beaucoup de livres différents. Donc si j'en avais deux à vous proposer là aujourd'hui sur cette question-là précisément, ce seraient les deux livres de Gary Marshall qui s'appellent « La maîtrise de l'amour » et qui s'appellent « Les cinq langages de l'amour ». Donc Gary Marshall, « Les cinq langages de l'amour » et « La maîtrise de l'amour », il y a aussi le livre qui parle de ça de Don Miguel Ruiz. Donc c'est l'auteur des 4 accords Toltec. Et avec ces deux livres-là, je pense que vous aurez comme moi des flashs de se dire « Ouh là là, j'étais un peu égarée dans certaines relations. J'étais un peu dans des croyances vraiment limitantes que l'amour c'était ça, que l'amour ça devait être ça, que l'amour c'était vraiment très fermé, très limité. » Alors que l'énergie de l'amour, le besoin d'amour peut être comblé de tellement de sortes différentes et pas seulement par le partenaire, pas seulement par le coparent, pas seulement par nos enfants ou nos parents. C'est vraiment une énergie qui circule déjà autour de nous, là, à l'heure actuelle. C'est une énergie qui nous a portés depuis notre naissance. C'est une énergie qui va nous porter jusqu'à la mort. Donc ces deux premiers livres, là, Don Miguel Ruiz et Gary Chapman, vous les trouverez facilement en ligne si vous faites ces deux requêtes-là. Donc la maîtrise de l'amour et les cinq langages de l'amour. Et vous verrez qu'un des langages de l'amour de Gary Chapman se rapproche vraiment beaucoup du tequila, justement, du temps de qualité que j'ai inventé en classe pour les tout petits enfants de 2 ans. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On est sorti un petit peu vraiment de l'éducation des tout-petits, mais ça me paraît tellement être dans l'environnement proximal du jeune enfant que j'avais très envie d'approfondir aussi la notion de couple parental. Merci pour vos écoutes. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, à m'envoyer un petit message si vous voulez aller plus loin ou à me suivre pour la création du programme en ligne qui avance petit à petit. Bonne semaine. Au revoir.